Cruel et Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Cruel et Sac à dos vous propose des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien? Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Alors, bienvenue à Plus Ulien. Aujourd'hui, je suis en direct dans les locaux qui sont utilisés par l'association Les Chemins de l'Archéologie. Et je suis avec Daniel Le Gall. Et comme à notre accoutumée, donc dans Truelle et Sac à dos maintenant, je vais poser la question fatidique. Daniel Le Gall, qui êtes-vous ?
Bon, eh bien, je suis retraitée d'éducation nationale, j'ai 73 ans quand même. Et puis, j'apprécie beaucoup les randonnées pédestres dans notre secteur qui a un relief varié, boisé, et où on peut faire des découvertes justement qu'on ne connaîtrait pas si on circulait uniquement en auto. J'ai aussi enseigné à des élèves de maternelle et de primaire, ce qui m'a fait un petit peu me lancer aussi dans l'animation autour des sites archéologiques.
Et quand tu étais enseignante ici à Plus-Ulien ?
Non, pas très loin, dans le secteur de Corlay-Saint-Nicolas-du-Pelem.
Quand même, donc déjà même en tant qu'enseignante, tu avais une connaissance, on va dire, du territoire sur ces lieux-là.
Voilà, et puis j'aimais bien faire découvrir les éléments historiques, mais historiques locaux, mais pas seulement, aussi les éléments botaniques, géographiques, etc., artisanaux aussi, qu'on a dans la région, de façon à développer une ouverture d'esprit des enfants, à les éveiller au monde qui les entoure, monde qu'ils ignorent la plupart du temps parce que par habitude ils passent à côté de plein de choses qui leur paraissent tout à fait logiques et sans jamais se poser de questions. En même temps, je pense aussi que ça peut amener, ils peuvent amener leurs parents à voir ces lieux qui sont tout près de chez eux et à les découvrir avec un autre œil. J'ai beaucoup travaillé avec eux sur les sites archéologiques de Kelfenek, des mégalithes de Liscuis et de Saint-Nicolas-du-Pelem et bien d'autres dans les alentours.
Et en plus, c'était une époque où, par rapport à aujourd'hui, on a plus de mal à faire sortir les écoles, à les transporter, où on pouvait, en termes d'autorisation ou d'assurance aussi, il y avait peut-être plus d'autorisation pour se permettre ce genre de choses.
C'est vrai qu'on avait plus de liberté. On pouvait les transporter en auto, et voilà, en petits groupes. Donc c'était beaucoup plus facile. Et au niveau des horaires, on pouvait aussi carrément allonger la journée, puisqu'il n'y avait pas de transport scolaire comme il y a maintenant. Et maintenant, on constate que quand on reçoit des scolaires, on est très limité dans le temps parce qu'ils ne peuvent pas partir avant l'heure prévue de l'école. Et pour le retour, c'est pareil. Donc, très souvent, il n'y en a que très peu de temps dans la journée à leur consacrer.
Ah oui, il suffisait de prévenir les parents pour dire ça commence voilà. Tôt le matin, ils arriveront plus tard le soir et ça marchait. Quoi.
Ça marchait comme ça.
Aujourd'hui, 16h30 pour les plus petits.
Et voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, il y a une heure de route. Alors, et pourrais-tu nous raconter un peu ton parcours justement en amont de ce... Parce que tu es devenue enseignante directement ou est-ce que tu as fait autre chose ? Je pose toujours un peu cette question.
Non, j'étais enseignante directement.
Directement, donc. Mmh. Et alors, à l'époque, ça se passait comment ? T'es sortie du bac, t'avais un bac littéraire, un bac scientifique ?
Un bac scientifique, et puis j'étais à l'école normale des filles de Saint-Brieuc, de toute façon. Donc, c'était un suivi, on passait le bac là-bas, et après, on avait la formation en tant qu'institutrice à ce moment-là. Quoi.
Et comment toi, alors, suite à tout ce parcours-là, tu es devenue présidente de l'association des chemins de l'archéologie ?
Alors, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, donc j'étais déjà très intéressée par le sujet. J'y avais emmené des élèves, la plupart de mes élèves avaient visité ces sites archéologiques. Ce n'était pas forcément une visite des sites archéologiques, parce qu'on faisait aussi des sorties qui pouvaient durer 3 jours, en autonomie, on n'allait pas dans des centres agréés, etc. On emmenait tout ce qu'il fallait, on circulait à vélo, on traversait le lac de Guerlédan sur un bateau, on mettait les vélos dedans, et puis de l'autre côté du lac, on poursuivait sur le Morbihan. C'était donc un petit peu l'aventure. Et donc, c'était de la découverte, effectivement, de l'archéologie, de l'histoire, mais dans bien d'autres domaines. Hein. C'était global, en fait. Je crois qu'on ne peut pas non plus séparer les différentes disciplines comme ça. On faisait aussi bien de la géographie, du sport aussi, hein, parce que quand on allait à vélo ou quand on grimpait sur les crêtes de l'Esquisse, c'était aussi de l'éducation physique, la botanique, la géologie, tout ça entrait en ligne de compte, quoi, hein, par rapport, fallait bien sûr adapter ça au niveau des élèves qu'on avait. Ce n'était pas toujours les mêmes, mais ça pouvait se faire.
Donc, tu avais à la fois les élèves, et alors à quel moment tu t'es dit que ça serait bien qu'il y ait des adultes qui viennent avec toi jouer justement et monter l'association ensemble ?
Alors, l'association, ce n'est pas moi qui l'ai montée. En fait, c'est le conseil général à ce moment-là, on l'appelait le conseil général des Côtes d'Armor, qui a acheté une partie du site sous l'impulsion des maires de l'époque. Et bon, maire qui n'était peut-être pas spécialement intéressé par l'archéologie, mais qui comprenait très bien que ça avait un intérêt quand même pour la commune. Donc ils ont sollicité le conseil général de l'époque, qui a fait des démarches plutôt difficiles avec les habitants autour. Et donc le conseil général a pu acquérir 12 hectares et demi du site, qui en couvre quand même une centaine. Et donc à la suite de ça, ils avaient envie qu'il soit créé une association qui puisse justement animer le site, hein, que ce ne soit pas un site qui reste inerte, ouvert au public, mais qu'il n'y ait pas d'explication dessus. Donc c'est là que l'association a été créée, en grande partie par des élus municipaux. Au départ, c'était surtout ces membres-là, qui n'étaient pas forcément intéressés par l'archéologie, mais qui sentaient le besoin de le faire quand même. Et puis on a pu trouver quand même un président. Et moi, j'ai rejoint très vite l'association parce que j'étais intéressée justement par le sujet.
D'accord. Donc au démarrage, vous étiez combien de membres à peu près au lancement, on va dire, aux prémices ? Une petite dizaine ?
Oui, une petite dizaine.
Ouais, c'est oui, c'est ça. Oui. Et alors, toi, tu deviens présidente à partir de quand ?
Je ne sais plus exactement quand est-ce que je suis venue. deux ou trois ans après, hein, c'est-à-dire qu'on avait un président, mais qui était très occupé et qui travaillait aussi la nuit, donc il avait du mal à suivre horaires, aussi. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui me seront tombées dessus dès le départ.
Et alors justement, je voulais en venir à quoi ça consiste d'être président d'une association comme ça qui s'occupe de valoriser le patrimoine.
Alors, c'est pas facile, disons, de s'en occuper, parce que déjà, il faut être président d'une association, quelle qu'elle soit, il faut avoir des relations avec des bénévoles. C'est vrai qu'avec les bénévoles, on ne peut pas les mener comme mènerait des salariés. Ce sont des gens qui ne sont pas formés. Au début, bon, il y a quand même toujours des couacs, parce que l'archéologie demande d'être très précis, d'être strict dans ce qu'on fait, etc. Il y a une éthique à surveiller, je dirais, à respecter, oui, alors que les bénévoles sont quelquefois prêts à foncer aussi et à ne pas faire les choses correctement. Donc déjà, ça, c'est difficile, comme dans toute association. Il faut aussi essayer de voir ce qu'on peut faire dans le domaine archéologique, parce que c'est un domaine où les gens ne viennent pas spontanément. Donc il faut essayer de le rendre plus accessible au public non initié. Alors quand on ouvre un musée, tout de suite le mot musée fait peur. Et c'est pour ça qu'on ne l'emploie plus beaucoup, on dit plutôt espace muséographique. Et que les gens puissent se l'accaparer, se l'approprier quand même.
Ouais. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'actions justement qui ont été menées par les chemins de l'archéologie à proprement dire ?
Alors, au début, bon, on était tout timide, hein, parce qu'on n'avait pas de local déjà. On était dans une salle à l'étage, la salle polyvalente, on avait juste un petit coin. Et au départ, eh ben, c'était juste des tables où on posait dessus des haches, comme ça, à la portée de tout le monde. N'importe qui pouvait les embarquer s'il voulait, mais bon, on n'a pas eu de problème. Et donc, c'était seulement ça. C'était des haches prêtées par le service régional de l'archéologie et quelques-unes qui venaient peut-être du coin. Donc, c'était uniquement ça. Et pendant l'été seulement. Et puis après, on a bénéficié quand même d'une aide du Conseil général qui avait fait une exposition à La Roche-Jagu en 1999, sur exposition qui devait s'intituler « Mémoire d'âme », donc où on retraçait le site de Quelfenec. Et donc il y avait des panneaux suspendus. Et donc, on a pu bénéficier de ce qu'ils avaient, de cette exposition-là.
De ce qui avait été produit, quoi, vous avez eu en retour, voilà. Certains voilà. panneaux. Quoi.
Alors, ouais. C'était des panneaux qui avaient quand même été faits très scientifiquement par Charles Tanguy-Leroux, entre autres. Quoi, hein. Donc, il y avait quand même une bonne valeur scientifique.
Alors, Charles Tanguy-Leroux, qui est l'archéologue, justement, du site de Kelfenek, c'est lui qui...
Qui a découvert le site, voilà. C'est voilà. Ça, ouais. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, on les a mis dans la salle là-haut. Et après, donc, on a acheté quand même des vitrines. Et le service régional de l'archéologie est venu nous placer des objets dedans. Donc ça, c'était à l'étage. Ensuite, il était prévu qu'il y ait une maison de l'archéologie créée. Il y avait une vieille maison au bout de la mairie qui pouvait être réaménagée, qui pouvait être cédée à la communauté de communes et où on aurait pu faire justement un espace muséographique. Mais changement de municipalité, donc changement d'opinion aussi. Et la maison a été rasée pour faire une nouvelle mairie, justement, restructurer la mairie. Donc on n'avait plus de maison.
C'est ça, plus de bâtiment à titrer.
Plus de bâtiment pour faire une exposition. Alors à ce moment-là, la municipalité nous a accordé une salle au rez-de-chaussée qui faisait 35 mètres carrés, qui était l'ancienne salle du conseil municipal, où donc on a déménagé nos vitrines, nos panneaux, qui étaient suspendus aussi à l'époque, et puis voilà. Et donc on a travaillé dans cette salle.
Donc là, mise en place d'une nouvelle muséographie, on va dire.
Alors c'est plus tard, alors au départ aussi, on a vu qu'on faisait la visite du site de Kelfenek, on présentait donc nos panneaux suspendus avec les objets dans les vitrines, et puis on s'est rendu compte quand même que c'était un petit peu qu'il manquait quelque chose, qu'il y aurait eu besoin de supports, vidéos, etc. Donc là, on a décidé de faire un film avec Christine Boisseau. Je crois que c'était en 2008 qu'on a dû lancer cette idée. Et donc le film est sorti en 2010. Donc là, on l'a fait aussi de manière très scientifique, qui nous a permis aussi de nous relancer dans le sujet et de connaître mieux les détails aussi, le fond du sujet.
Et c'est ça, c'était à la fois pour le public et puis pour vous en tant que membre de l'association, pour former un peu tout le monde. Quoi,
voilà, voilà. Et donc, ça s'est fait sur différents sites, hein, le site de Kelfenek en priorité, bien sûr, mais aussi les sites mégalithiques aux alentours, Liscuis, Guarec, Plélof... Mur de Bretagne, donc tous ces sites aussi étaient concernés par le film.
Intégré, quoi. Voilà. Et donc là, maintenant, la maison de l'archéologie, elle a pris vie, on va dire. Il y a quand même... déjà, il y a un panneau.
Oui.
On la voit de l'extérieur. Et est-ce qu'en termes de fréquentation, on arrive à faire venir quelques écoles, un petit peu de public sur l'année où en êtes-vous?
Oui. Alors là, on a refait la muséographie quand même. Il faut dire qu'on avait un espace étroit, certes, mais on a pensé justement comment aménager cet espace étroit pour en faire une muséographie plus attractive. Donc, on s'est lancé avec les mémoires du Crespès, donc avec Céline, pour travailler sur le sujet. Et on a démarré ça en 2009 quand même, et ça a mis beaucoup de temps. Et donc, on a réussi à faire quand même un travail pas trop onéreux. C'était la communauté de communes du Pays de Corlay, comme on a changé de communauté de communes. Oui, c'était la communauté de communes du Pays de Corlay qui le prenait en charge à ce moment-là. Et donc, on a fait un travail scientifique également, puisqu'il y avait un comité de scientifiques avec des archéologues, dont encore Charles Tanguy-Leroux, on avait la chance de l'avoir sous la main.
Ça fait qu'on peut, on le sollicite.
Et des géologues, des expérimentateurs. On a réussi à mettre en place un nouveau contenu, présenté donc de façon plus ludique, qui pouvait attirer le public. Ça s'est vite, on a vite compris qu'on était à l'étroit parce qu'on avait aussi besoin de présenter les connaissances géologiques et donc on n'avait pas de place pour mettre ce domaine-là. On a négocié avec la mairie de Plessulien pour s'installer dans le couloir à côté où on a pu mettre un pupitre sur la géologie et on a utilisé les vitres pour montrer, pour y accoler une frise chronologique.
Oui, c'est ça, pour compléter les différents discours tenus voilà. À l'intérieur de l'espace muséographique en tant que tel. Quoi. Et alors toi, qu'est-ce qui te motive à vouloir transmettre à ce point-là ce patrimoine, ces connaissances-là, et de protéger ces vestiges aussi archéologiques comme tu le fais.
Oui, je crois que c'est un peu un état d'âme aussi. En tant qu'astite, je dois avoir ça en moi déjà. Hein. Et puis ça me paraît important de donner connaissance de la vie des gens, surtout des gens d'avant, leur mode de vie quotidien en particulier, et de suivre cette évolution constante dans notre société en les situant chronologiquement, mais sans être pour autant rigide avec des dates au travers des événements. Moi, je préfère finalement montrer l'évolution du mode de vie des gens.
Oui, c'est ça, pour avoir une chronologie arrêtée en même temps.
Sans être trop spécialiste.
Ça se mélange quand même. Oui. Ouais. Et alors, pour toi, c'est quoi justement la médiation en archéologie? Parce que d'entre eux, les sacs à dos, c'est de ça qu'on aime bien parler en particulier. Mmh. Alors, pour toi, c'est quoi?
Alors, la médiation, c'est déjà avoir les connaissances scientifiques, hein, mais essayer de les transmettre au public le plus simplement possible. Alors, je crois que quand on est spécialiste, c'est difficile justement de vulgariser les propos. Ça, c'est une chose qui n'est pas facile, surtout quand on a des jeunes et même quand on a des adultes, parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'eux n'ont pas les bases que nous avons, par exemple. Donc, il s'agit de transmettre le plus simplement possible au public sans trop restreindre justement les connaissances. Oui.
Comment est, alors, la Maison de l'archéologie a plus eu lien? Donc, tu disais tout à l'heure, c'est le Conseil général qui était à l'initiative de la valorisation du site en tant que tel, de Quelfenet, quoi. Ça a été porté par des politiques, donc, au démarrage.
Ça a été porté par des politiques.
Et pour eux, ça faisait partie d'une mise en place à l'échelle du département de valorisation avec d'autres sites?
J'ai jamais senti ça, effectivement. C'est-à-dire qu'au Conseil général, à ce moment-là, il y avait quand même un service archéologique
et qui n'existe plus.
Voilà, qui a disparu depuis plusieurs années. Ouais. Et donc, on ne sent pas vraiment de lien avec d'autres sites archéologiques, à part nous qui faisons ce lien dans le secteur.
Hein. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais à l'époque, quand le projet a été initié, moi j'ai souvenir, il y a eu... Du coup, un parcours d'interprétation qui a été installé sur le site avec des panneaux informatifs qui ont été réalisés.
Oui.
Et ça, c'était entièrement porté aussi par le Conseil général, où déjà l'association avait...
Non, dès le départ, le Conseil général a fait son aménagement. Alors, avec les politiques, hein, puisqu'il n'y avait pas d'association à ce moment-là. Et donc, avec les politiques, je ne sais pas comment ça s'est passé pour faire l'aménagement. Et puis, les panneaux... sont venus tout de suite. Donc, deux panneaux. Un panneau qui explique justement comment les haches étaient fabriquées sur le site, sur la partie visible du site, hein, le rocher, hein, parce que le site, effectivement, c'est des roches qui sont sous terre encore, quoi, qui existent toujours. La partie visible, c'est le rocher, donc c'est ce qu'on montre au public. Et autrement, il y a un autre panneau qui décrit justement un peu l'évolution du paysage.
Oui, donc ça vient compléter aussi lorsqu'il y a des visites, vous, à la Maison de l'archéologie, il y a à la fois des visites sur le site et des visites de l'espace muséographique qui se complètent l'un l'autre.
Voilà, ça se complète tout à fait. Moi, je trouve intéressant d'aller, c'est ce que j'ai toujours pensé avec les enfants, leur montrer ce qui est concret, hein, leur montrer la carrière, effectivement, la carrière... ce n'est qu'un rocher, quoi. Il n'y a rien à voir si on veut, sauf si on voit quand même quelques traces du passé, qu'on explique, parce que quand on y va, on les voit pas, donc quand on y va tout seul. Mais c'est montrer qu'il y a du concret, que c'était là quand même que ça se passait.
Et puis quand on explique, effectivement, ça donne envie aussi de se dire, tiens, ils étaient là.
Voilà, on peut s'imaginer un petit peu ce qu'ils ont vécu, les émotions qu'ils ont peut-être éprouvées, et qu'on peut, nous, éprouver, justement, aujourd'hui. Ouais. Hein, on peut peut-être transférer ces émotions aux gens d'aujourd'hui.
Et alors, aujourd'hui, justement, quelles seraient pour toi les suites à envisager pour ce lieu, si tu pouvais faire tout ce que tu souhaites?
Ah, c'est voilà. Alors maintenant, oui, ce serait intéressant d'abord d'être installé sur le lieu, d'avoir une muséographie installée sur le lieu.
Allez, directement.
Directement là-bas, ouais. Ce serait drôlement bien d'être sur place, dans la nature déjà aussi, parce qu'ici, on est dans une salle, un bâtiment communal qui donne sur la rue. On n'est pas dans... dans le site proprement dit.
Donc, ça ne donne pas une inspiration un peu néolithique qui pouvait être l'homme et la nature.
Voilà, c'est ça.
Quoi, on pourrait la ressentir. Quoi.
Parce que quand on va sur le site, on peut quand même leur parler de l'environnement aussi, hein, qui était quand même à peu près le même. Il y a un endroit toujours où c'était à peu près le même. Et on peut aussi leur montrer la différence, puisqu'on a des sapins en entrant sur le site, sapins qui ont été plantés il y a 30 ans peut-être, hein. Et donc on peut aussi leur expliquer que ce n'était pas la végétation de l'époque, alors qu'un petit peu plus loin, c'est la végétation de l'époque. Donc on serait sur le site, ce serait formidable. Mais bon, c'est très difficile d'accès. En même temps, ça préserve le site aussi, parce qu'on peut y aller qu'à pied. Donc si on pouvait y aller en voiture, il serait peut-être beaucoup plus détérioré. Et là, on peut aller qu'à pied. Donc, l'idéal, ce serait ça, quoi, d'avoir un endroit où on pourrait fonctionner, faire des animations, effectivement, pour faire découvrir ce site.
Avec un espace plus grand en termes de muséographie.
Alors, en termes de muséographie, un espace plus grand, plus adapté peut-être aussi. Et puis avoir aussi une salle pédagogique, on peut dire, où on ferait des ateliers qui peuvent être faits à l'intérieur ou à l'extérieur aussi. Ouais. Parce que je crois que c'est important aussi de travailler à l'extérieur. Sauf que quand même, on n'aime pas trop être dans le froid, dans la neige et sous la pluie. Donc c'est quand même bien aussi d'avoir quelque chose à l'intérieur.
À l'abri, quoi.
Et avoir un endroit où on peut stocker notre matériel. Parce que là, on n'a rien pour stocker notre matériel. À part deux petites armoires ici.
Ça prend vite de la place.
Voilà, on était obligé de le stocker chez les bénévoles de l'association. C'est ça, il y en a un petit peu partout.
Et alors, quels sont les projets à venir justement au sein de l'association et que toi tu souhaiterais peut-être mener ou laisser déléguer à d'autres?
Oui, on aimerait que utiliser les professionnels justement de la médiation pour justement mener certains projets, avoir des idées, voir aussi ce qui se passe ailleurs, essayer d'évoluer, d'innover en particulier, quoi. Et donc, ces projets-là, il faut les penser longtemps à l'avance et puis se trouver les moyens de les mettre en place.
Oui, on n'en a pas parlé tout à l'heure avec la nouvelle muséographie, par exemple. Il y a une tablette tactile qui a pris place au sein de la muséo.
Oui, voilà. Donc là aussi, on a des vidéos, des petites vidéos que le public peut voir quand il est seul, là. Et puis, ça lui permet de mieux se rendre compte de ce que les hommes de cette époque pouvaient faire.
Oui.
Donc, il y a ces petites vidéos qui sont très intéressantes.
Oui, il y a des illustrations aussi qui ont été faites.
Illustrations avec des... de l'époque, disons, quoi, de l'époque néolithique.
C'est ça,
mettre dans l'ambiance, ouais, dans le bain néolithique, pour essayer de communiquer des émotions, ça c'est important aussi.
Et alors toi, avec ton expérience aujourd'hui, quels conseils tu pourrais donner à ceux qui se lanceraient dans de telles actions, ou en tout cas souhaiteraient développer aussi ce genre de choses?
Alors il faut... avoir de la volonté, hein, pour le faire, hein. Et il faut foncer, c'est sûr qu'il faut foncer. On sait qu'on ramasse des coups, hein, de part et d'autre, ça, c'est comme ça que ça se passe. Faut les supporter. Il arrive aussi qu'on puisse tomber, hein. Ça marche pas toujours, et puis tant pis, ça peut arriver aussi. Mais bon, ça demande d'aller de l'avant, de foncer dans des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Et puis de s'entourer surtout de gens qui sont compétents. Dans tous les domaines. Alors là, les bénévoles, chacun a ses compétences. On n'a pas forcément des gens qui sont formés en archéologie, mais il y en a d'autres qui peuvent nous aider justement pour le matériel, pour gérer des événements, etc.
Qui vont être bons en comptabilité parfois. On cherche ceux qui gèrent la trésorerie.
Voilà, tout à fait.
La logistique.
Oui, on est tout à fait content de trouver des gens comme ça. Et puis, bon, il faut que chacun ait la bonne volonté de le mener au bout, quoi.
Ouais. Et alors, ma dernière question, c'était, est-ce que tu avais un site archéologique préféré dont tu pourrais nous parler?
Je sais pas, c'est pas un site, en fait. Je crois que c'est un ensemble de sites. Je vois, bon, moi, c'est surtout les sites néolithiques, hein, c'est là-dedans que je me suis plus penchée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sites intéressants tout autour, hein, effectivement. Moi, je crois que c'est un ensemble de sites, parce que chaque site peut révéler quelque chose. On a l'atelier, donc c'est un artisanat en quelque sorte, l'atelier de fabrication de haches polies. Mais tout autour, il y a les menhirs, donc qui disent qui disent que les gens ont vécu d'une certaine façon. Et ces menhirs, bon, on peut bien sûr émettre des hypothèses, mais on peut penser que voilà, s'il y avait des menhirs là, c'est que les gens y passaient. Peut-être que c'était des indicateurs de circulation, peut-être aussi que c'était pour vénérer quelque chose, indiquer des sources ou autre chose. Mais c'était quand même des symboles. Et en plus, les allées couvertes, ce sont des sites funéraires. Tout ça, c'est un ensemble de la vie des hommes. Chaque site nous apporte quelque chose sur la vie, la vie quotidienne de ces hommes. Alors, ce qui nous manque le plus ici, c'est les habitats, puisqu'on n'a pas de traces d'habitat proprement dit, mais on a des traces d'occupation quand même, puisqu'on trouve des objets, on sait que des gens ont demeuré là à certains moments.
Ils transitaient.
Ils transitaient et ils se déplaçaient et ils s'installaient aussi. Sauf qu'on est dans une zone agricole aussi, donc qui a été très cultivée. On n'a pas tellement de projets économiques, donc pas de fouilles préventives non plus. Donc ça ne nous permet pas de découvrir autre chose.
Mais ce qui permet en même temps de préserver.
Qui permet de préserver, ça c'est
ça,
important.
Donc ouais. Pourront venir faire les curieux pour découvrir ces fameux habitats. Bien, merci beaucoup Daniel pour cette découverte du territoire du côté centre-Bretagne, mais plutôt costa-armoricain. Et donc nous, on se retrouve avec Truelle et Sac à dos et Archéolab tous les mercredis matins sur Radio Évasion. Donc encore merci.
Eh bien merci, si.
Truelle et Sac à dos continuent son périple à la découverte de la médiation en archéologie en Bretagne. Et peut-être un peu plus loin. Nous vous parlerons prochainement aussi de médiation des patrimoines, avec un S. Chez Archéolab, l'archéologie a une place primordiale. Elle s'intègre dans la culture d'un territoire, son patrimoine et sa mise en tourisme, permettant d'être un vecteur important pour le développement local. Alors si vous avez passé par Plomy-Urménez, patrimoine Comana, en plein cœur des Monts d'Arrée, n'hésitez pas à faire une halte à l'ancienne poste devenue pôle culturel pour découvrir l'exposition du moment Couleur patrimoine jusqu'au 19 décembre. Et si vous souhaitez encore plus d'émotions pour les fêtes, nos amis wallons du Préhisto Museum reçoivent l'exposition itinérante Lascaux Experience, une découverte de la grotte en réalité virtuelle. Nous espérons bien la voir venir en Bretagne aussi. D'ici là, continuez d'ouvrir vos oreilles sur Radio Évasion et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!